Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج
Aujourd'hui, je vais évoquer des incidents au cours de la vie des compagnons du Messie premier l'Islam, des incidents qui ravivent la foi, et on comprendra l'étendue de la certitude qu'ils avaient en Dieu. Et on verra aussi la confiance qu'ils avaient en Dieu et l'amour qu'ils éprouvaient à l'égard de Dieu. Et on découvrira aussi le sens de l'honneur de Dieu à leur égard. Le premier incident concerne le premier calife de la communauté Ahmadiyya. Il déclare qu'au Cachemire, il y avait un vieillard qui avait appris la définition de nombreux termes de différents sujets et il demandait aux érudits de lui présenter la définition d'un terme quelconque. Et lorsque les autres présentaient la définition, le vieillard trouvait toujours des lacunes dans ce qu'il disait, car lui, il avait mémorisé les définitions de chaque terme. Ainsi, il prouvait sa suprématie sur les autres. Le premier calife déclare qu'un jour, il m'a interpellé dans la cour du Raja, dans la cour du roi du Cachemire. Il m'a demandé, Maulvi Saheb, que signifie la hikma, c'est-à-dire la sagesse. Il voulait donc que le premier calife présente une définition pour qu'il puisse en trouver des défauts. Le premier calife a déclaré que la hikma signifie éviter le shirk ainsi que toute autre offense. Il a demandé qui a défini ainsi la hikma. Le premier calife a déclaré que j'étais chez un médecin qui était aussi un hafiz et je lui demandais de me présenter la traduction de la quatrième coup de la sourate Bani Israël. Il dit « Dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikma » c'est-à-dire « Ceci fait partie de cette chasse que ton Seigneur t'a révélée ». L'autre, c'est-à-dire le vieillard, était tout étonné. Cette quatrième roukou concerne les versets 32 à 41 de la sourate Ben Israël. On trouve donc ce genre de savant à l'instar de ce vieillard à toute époque. Leur but n'est pas de répandre la connaissance, leur but est tout simplement d'intimider les autres par leur connaissance. Ils sont dénués de taqwa. Ils défiaient donc les autres savants, et tel est l'état des érudits d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire, ils veulent tout simplement faire étalage de leurs connaissances. Aujourd'hui, ces personnes se présentent dans différentes émissions de la télé. Et c'est pour cette raison que je m'adresse aux Ahmadis et aux jeunes et je leur dis de ne pas se laisser impressionner par ces soi-disant érudits. Et par exemple, ces temps-ci, il y a un soi-disant savant qui se présente dans une émission. Et c'est un savant qui veut tout simplement attirer les jeunes vers lui. Afin d'attirer les jeunes vers lui, il a déclaré aussi qu'il n'est pas dit dans le Saint-Coran que les femmes doivent se couvrir ou faire la parda, comme on dit. Et il ajoute aussi que ces injonctions concernant la parda concernent uniquement les femmes du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans la sourate Al-Ahzab, cette injonction concerne les femmes du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les croyantes en général. Allah déclare « Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina » Yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles doivent tirer sur elles une partie de leurs vêtements extérieurs de la tête pour masquer leur visage. Et maintenant, certaines personnes sont en train d'interpréter ce verset en disant que couvrir la poitrine signifie qu'on peut laisser les cheveux à découvert. Et nous en voyons les conséquences dans les pays musulmans. Certes, il y a des réactions contre les campagnes anti-parda ou anti-islamiques en Europe, mais généralement dans les pays musulmans, on ne couvre plus la tête ni les autres parties du corps. Je n'ai pas entendu cela directement, mais il est dit que ce soi-disant érudit a déclaré que dans le Saint-Coran, il n'est pas dit qu'on a besoin du califat ou que le califat va perdurer. Certes, le califat n'est pas important pour ces gens, car quant à ceux qui n'ont pas accepté l'imam de l'époque, quant à ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis, alayhissalam, ces personnes ne pourront pas établir le califat et ne pourront pas non plus profiter des bénédictions qui découlent du califat. Il y a un incident qui concerne le premier calife. Monsieur Abdul Qadir déclare qu'une fois, le premier calife est parti à Lahore et ce Mohammed Iqbal est venu le rencontrer. Il était en train d'étudier à l'époque dans un collège du gouvernement à Lahore. Un des professeurs de ce collège a déclaré qu'aucun esprit asiatique ne pourra comprendre la question de la Trinité. Le Allama Iqbal est parti voir le premier calife car il n'avait pas trouvé de réponse à cet argument du professeur Arnold. Et il a demandé au premier calife de lui présenter la réponse. Le premier calife de la communauté ahmadiyya lui a dit que dites au professeur que si ce que vous dites est la vérité, alors ni Jésus ni ses disciples n'ont compris cette question de la Trinité car ils étaient eux aussi des Asiatiques. En entendant cette réponse, le professeur Arnold était bouche bée comme s'il n'avait jamais fait cette déclaration. Et il est dit aussi qu'il en a fait mention dans une conférence en Europe, mais il n'a jamais eu de réponse satisfaisante. Maulana Ghulam Rasool Raji qui rapporte que lorsqu'après la venue du Messie premier l'Islam, dans différentes régions, il y a eu une épidémie de peste au Punjab. Et il déclare que pour l'établir, il est parti dans le village Gorlaya pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il habitait ces temps-ci chez un Ahmadi, M. Sultan Alim de la région. Et au cours de son séjour dans ce village, tous les soirs, il montait sur le toit de la maison de M. Sultan afin de faire des discours et afin d'informer les gens à propos de l'Ahmadiyya. Dans ses discours, il avait averti ces gens concernant l'épidémie de la peste qui était une calamité. C'est pour cette raison que quelques personnes sont venues le rencontrer un matin et ont déclaré que vous nous avez menacés et vous nous avez avertis que nous serons frappés de peste si nous n'acceptons pas le Messie promis, Mirza Saheb. Mais sachez que ce village se trouve sur une hauteur et son atmosphère est pure. Et cette épidémie ne pourra pas se répandre ici. Le Molvi Rajiki leur a dit que c'est vrai. Mais dites-moi si jamais un missionnaire Ahmadi est venu avant moi pour vous prêcher ce message. Un missionnaire Ahmadi qui est venu vous présenter le message du Messie promis alayhi salam. Les gens du village ont dit non, personne n'est venu nous en informer auparavant. Et le Molana Rajika a déclaré que c'est pour cette raison que votre village a été protégé. Si après la prédication de ce message et après votre rejet du message, vous êtes toujours sous la protection de Dieu et que cette épidémie ne s'est pas répandue ici, alors c'est là que je vais accepter que l'atmosphère pure de ce village a arrêté le commandement de Dieu où il est dit « Wama kunna muradibina hatta nabratha rasula ». C'est-à-dire que nous n'envoyons pas de châtiment tant que nous n'envoyons pas de messager. Et il déclare que je suis parti de ce village. Après quelques jours, les gens sont commencés à mourir à cause de cette peste et la mort a frappé avec une telle virulence que bon nombre des habitants de ce village sont morts et les autres sont partis dans d'autres villages. La peste était donc une des calamités qu'avait évoqué le Messie promis, alayhi salam. Et un autre signe concerne les tremblements de terre. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons différentes calamités. Mais les gens ne veulent pas accepter Allah, ne veulent pas accepter l'imam de l'époque. Les gens ne sont pas prêts d'accepter non plus le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Leur conscience est complètement morte et la destruction est en train de frapper ce bas monde, mais les gens ne veulent pas comprendre. Seul Allah pourra guider les gens et pourra protéger les gens de ces calamités. Malik Salahuddin rapporte un incident à propos du Maulana Baghapuri qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il déclare que le deuxième calife avait envoyé le Maulana Baghapuri dans la région du Sindh en 1923 et lui avait donné la responsabilité de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Là-bas, il y avait l'ethnie Sanghuri qui comptait 100 000 personnes et les Aryas voulaient les convertir à l'hindouisme. Le Maulana a étudié la langue Sindhi et a commencé à faire des discours après quelques mois de la langue Sindhi. En quelques mois donc, il a pu maîtriser cette langue et a commencé à faire des discours dans cette langue. Et il a commencé à avoir du succès contre les Aryas. Là où les Aryas arrivaient à convaincre les simples d'esprit, le Maulana portait dans ces régions et raffermissait leur foi. Ainsi donc, il a fait une longue lutte et après 7 ou 8 mois, les Aryas avaient perdu tout espoir de convertir les Sanjogis. et ils ne se sont plus convertis à l'hindouisme. Mais en 1924, l'année ensuite, il y a eu des oulémas et des autres leaders musulmans qui sont venus et qui se sont opposés au Maulana Bakapuri et ils ont fait des débats avec lui. Et le Maulana Bakapuri était tout seul et il faisait face à une douzaine d'oulémas non-ahmadis. Mais par la grâce d'Allah, il arrivait tout le temps à voir le dessus sur eux et conséquemment, les gens étaient davantage intéressés par l'Ahmadiyya. Et la Jamaat a été établie dans certaines régions du Sindh. Les gens ont pris de l'intérêt avec le message de l'Ahmadiyya et les oulémas se sont sauvés de la région et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas se mesurer au Maulana Bakapuri. Et un nombre de personnes donc se sont tournées davantage vers l'Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et en 1928, en dépit de sa maladie, il a continué à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il est parti dans différentes villes. Et il y a nombre de personnes qui se sont converties. Au début, il n'y avait que 3 ou 4 familles. Mais petit à petit, par la grâce d'Allah, on a pu établir 50 jamaat dans cette région. Le Maulana Basharat déclare que les gens de l'ethnie Sanjogi ont continué à se marier avec des proches non-musulmans et c'est pour cette raison que leur foi s'est affaiblie et petit à petit, ils se sont écartés de l'islam et de l'ahmadiyya. Cela concerne aussi les ahmadis d'aujourd'hui. Certaines personnes ne sont pas vigilantes et leurs décisions sont prises sous le compte des émotions et se marient avec des non-musulmans ou de non-ahmadis et petit à petit, ces familles s'éloignent complètement de la foi. Il déclare aussi que le Maulana a su qu'il y avait des gens qui allaient se convertir à l'hindouisme dans une région quelconque. Il est parti voir le chef musulman et ce chef a déclaré que les mollahs musulmans ne nous ont pas aidés et nous avons pris un engagement avec les hindous que demain nous allons tous nous convertir à l'hindouisme. Ils ont invité le Maulana à prendre un repas et celui-ci en a refusé et il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Les gens étaient perturbés par ses pleurs et ils lui ont invité, encore une fois, il a refusé de manger. Le chef du village a déclaré que ce sera un crime que de briser notre engagement. Et le Maulana Bakapuri a déclaré qu'il n'y a pas chose plus importante que la foi. Le chef a compris cela et il a déclaré que nous n'allons pas nous convertir à l'hindouisme et nous allons écrire une lettre à ces hindous. Le Maulana Bakapuri a déclaré « Écrivez cette lettre d'abord et ensuite je vais manger chez vous ». Ce chef a écrit que l'islam est une religion vivante et nous vous invitons à accepter l'islam. Nous n'allons pas abandonner notre foi et si vous venez ici, vous serez humiliés. Et après cela, le Maulana Bakapuri a mangé chez lui et les arias n'ont pas eu de succès. Il est dit à propos du Maulana Sayyid Sarwar Shah qu'il avait une grande connaissance et qu'il avait laissé ses impressions sur les ulémas de son époque. Il fut aussi le mufti silsila de la Jamaat pendant une longue période. Une fois, il est parti à Haripur pour un traitement médical et là-bas, il a rencontré un lutteur et lui a dit « Qui est ce Mollah qui est face à moi ?» Le lutteur a déclaré qu'il est le Mollah Minhajuddin et il se considère comme le plus grand débatteur et il veut faire un débat avec vous. Ils ont entendu parler de votre venue ici et il a déclaré que je veux faire un débat avec le Maulana Ahmadi. Donc, il veut parler à propos de l'Ahmadiyya. Et il a déclaré que demain, venez ici à 10h pour un débat. Le lendemain, le Mawlana Sharwar Shah l'a attendu, mais ce Mawla non-Ahmadi n'est pas venu le rencontrer. Il y a un terrain vague entre le marché de Haripur et de Sikandarpur. Le Mawlana Sarwar Shah est parti dans la direction de Haripur et en arrivant sur ce terrain, il a vu le Mawlana non-Ahmadi et ses compagnons. Mais ce dernier a fait demi-tour et n'est pas venu à sa rencontre. Le missionnaire Ahmadi l'a poursuivi. Et il croyait qu'il allait partir dans la grande mosquée, mais il a su plus tard qu'il n'est pas à la grande mosquée. Et il a vu que ce Mawla non-Ahmadi était en train de traverser par un canal boueux. Et le lutteur était à côté et était en train de rire. Il riait tellement qu'il avait des larmes dans les yeux. Et il a déclaré que le Mawla Minhajuddin est parti rencontrer un autre Mawla à Sikandarpur afin de prendre des références pour se préparer pour le débat. Il s'est préparé pendant toute la nuit et l'autre Mawla est venu le rencontrer le matin et lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et Minhajuddin a déclaré que demain ou ce matin, j'ai un débat avec le Mawla Sarwar Shah et je suis en train de chercher les références. Mais là où je regarde, je ne vois pas de preuves claires à propos de Jésus-Christ. Dans certains endroits, il est dit qu'il est mort, dans d'autres endroits, il est dit qu'il est encore vivant et je n'arrive pas à trouver de preuves finales. Le Mawla de Sikandarpur a dit au Mawla Minhajuddin que le fait que cette personne s'est convertie à l'Ahmadi m'a blessé plus profondément. Et ces gens m'ont poussé à faire un débat avec lui, mais moi j'ai évité ce débat car je sais que le Mawlana Sarwar Shah va prendre toute la province avec lui. Suite à ce débat, tous les ulémas de la province vont se sauver et plus vous allez parler avec lui, plus vous allez vous humilier. Et le lutteur a déclaré que c'est pour cette raison que le Mawlana Minhajuddin n'est pas venu vous rencontrer et en vous voyant, il s'est sauvé. Il en est de même pour les Mawlas d'aujourd'hui. Ils font de grandes déclarations à la télé, mais lorsqu'on leur demande de faire un débat avec nous sur leur chaîne ou sur notre chaîne de télé, ils ne répondent pas. Le Messie premier l'Islam avait reçu une révélation que Dieu va l'aider en inspirant la crainte dans les cœurs des autres. Cela s'applique aussi en faveur de ses suivants et de ses compagnons. Le deuxième calife déclare à propos du docteur Rashiduddin qu'une fois un prêtre nommé Zwimer est venu à Qadian. Il était un prêtre très connu. Il est venu des États-Unis d'Amérique. Il était un éditeur d'un grand journal chrétien et il était très connu dans les missions chrétiennes du monde entier. Il a entendu parler de Qadian et lorsqu'il est venu en Inde, après avoir visité d'autres régions, il est venu à Qadian et il était accompagné d'un prêtre nommé Gordon. Le docteur Khalifa Rashiduddin était vivant à l'époque et le docteur Khalifa Rashiduddin lui a pris pour visiter Qadian. Ce prêtre a commencé à tenir des propos sarcastiques et à Qadian, il n'y avait pas de mairie à l'époque. Et de toute façon, ces villages du Pakistan et de l'Inde sont remplis de saleté. Et il y avait donc beaucoup de saleté dans les ruelles de Qadian. Le prêtre Zwemer a déclaré que nous avons vu Qadian et nous avons vu aussi la propreté du village du nouveau Messie. Le docteur Khalifa Rashiduddin lui a dit que l'Inde est toujours sous le règne du premier Messie et c'est là l'exemple de sa propreté. Et le règne du nouveau Messie n'a pas encore été établi. Et le prêtre était tout embarrassé. Pir Sirajul Haq Saheb Nomani rapporte à propos de Munshi Zafar Ahmad Saheb que ce dernier avait un débat à propos de la vie et la mort de Jésus-Christ avec un disciple du Mollah Rashid Ahmad. Suite à cette conversation, le disciple n'a pas pu prouver que Jésus-Christ était toujours vivant. La question qu'on n'avait pas pu résoudre est « Peut-on vivre plus de 120 ans ?» Et aujourd'hui, peut-il y avoir des gens qui peuvent vivre aussi longtemps ? Le disciple n'a pas pu donc répondre à cette question et il a écrit à son maître, le Mollah Rashid Ahmad, et Rashid Ahmad lui a dit que cela est possible parce que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel depuis 2000 ans et on peut vivre encore plus longtemps. On peut voir par exemple que Satan est toujours vivant depuis l'époque d'Adam. Et plusieurs centaines de milliers d'années se sont écoulées. Munshi Zafar Saheb a répondu à cet argument et a déclaré qu'on parle à propos des hommes et pas de Satan. Na'udhu Billah, est-ce que Jésus-Christ faisait-il partie du groupe des Satans? Et c'est là une simple déclaration. Le Mollah Rashiduddin ne comprend pas. Pas la différence entre une preuve et une déclaration. Une déclaration doit être soutenue par une preuve et il y a donc une différence entre une déclaration et une preuve. Peut-on dire que le Satan de l'époque d'Adam est toujours vivant jusqu'à présent? Et peut-on dire qu'il a vécu si longtemps? En entendant cette réponse, le disciple a écrit à son maître et en présentant la réponse de Munshi Saheb, et le maître a écrit à son disciple en disant que tu es en train de parler avec un Mizahi. Dis-lui que nous ne voulons pas parler avec les Mizahi et ne parle plus avec lui. Voilà donc comment ils ont agi dans le passé et comment ils vont agir à l'avenir. À propos du docteur Khalifa Rashiduddin, il est dit qu'il est entré dans la cour du Nawab de Rampur et a déclaré à haute voix « Assalamu alaikum » et cela a été contre les étiquettes de la cour de ce roi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas saluer à haute voix. Et on devait aussi se courber, c'est-à-dire faire la référence face au roi. En présence du roi, on n'avait pas le droit de parler à haute voix, de parler avec respect, on devait se courber face au roi. On a fait comprendre cela au docteur et il a déclaré que moi, je me prosterne uniquement devant Dieu. Le Nawab, le souverain de la région, a menacé le docteur en disant qu'il va prendre des mesures disciplinaires et qu'il va le muter ailleurs. Il a déclaré que la main de mon Dieu se trouve sur ton cou et il pourra t'écarter de ce poste. Et il a défié le roi, le souverain. Et il en fut ainsi. Le docteur Khalifa Rashiduddin a écrit au Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam lui a répondu en disant « Oh mon cher ami, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, j'ai reçu votre courrier, je vais prier pour vous, mais vous devez, quant à vous, faire preuve de persévérance et vous ne devez pas être court. Allah va vous accorder sa grâce, priez en toute humilité. »
Allah
Et par la grâce d'Allah, les prières du Messie premier d'Islam ont été exaucées et le Nawab Rampur a été destitué et le gouvernement anglais a déclaré qu'il n'est plus apte à gouverner en raison de sa maladie mentale. Lui qui menaçait le docteur Rashiduddin a été écarté et il fut destitué. Le premier calife déclare qu'une fois il est parti à Lahore et il est passé à la mosquée Chinia. Il faisait ses ablutions lorsque le frère cadet du mollah Mohammad Hussein s'est approché de lui et lui a posé une question concernant les versets abrogés du Saint-Coran. Il a déclaré qu'on doit suivre le Coran et les hadiths. C'est quoi cette question des versets abrogés? Le premier calife a répondu qu'il n'y a pas de versets abrogés. Il n'était pas un grand érudit, il était quand même un enseignant, mais il n'avait pas une grande connaissance de la religion. Il avait peut-être entendu parler de cela de la bouche de son frère, le mollah Mohammad Hussein Badalvi. À l'époque, ce dernier était jeune et était impétueux. Le premier calife déclare donc que j'étais en train de prier et le mollah Hussein Badalvi faisait des va-et-vient. Lorsque j'ai terminé ma prière, il s'est adressé à moi et a dit « Est-ce que tu as dit à mon frère qu'il n'y a pas de verset abrogé dans le Saint-Coran ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de verset abrogé. » Et c'est là qu'il a dit « Est-ce que tu as lu le livre d'Abu Muslim d'Ispahan ?» Il était un sot et n'avait pas accepté qu'il y avait de verset abrogé. Et le premier calife a déclaré « Donc nous sommes deux ». Il a dit « Est-ce que tu connais Sayyid Ahmad ?» Il est le chef juge à Muradabad. J'ai répondu que je connais les savants de Rampur, de Bhopal et de Lucknow, mais je ne le connais pas lui. Il a déclaré que lui aussi n'accepte pas qu'il y a des versets abrogés dans le Coran. Et le premier calife a déclaré « Donc nous sommes trois ». Le mollah a déclaré qu'ils sont tous des innovateurs. L'imam Shoghani a déclaré que celui qui n'accepte pas qu'il y a des versets abrogés est un innovateur. Le premier calife a dit « Vous êtes maintenant deux et je te présente une solution. Présente-moi un verset abrogé et je vais présenter sa solution. » Et le premier calife a dit que s'il récite un des versets abrogés, que vais-je dire ? Cet incident date donc avant son acceptation du Messie premier alayhi salam. Il avait donc des soucis à se faire parce qu'il ne connaissait pas la solution à cette question. Le Mollah Hussein a récité un verset et le premier calife a déclaré que dans tel livre, un livre que tu acceptes, tu vas trouver sa réponse. Il a dit oui et je lui ai demandé de présenter un autre verset, mais il était silencieux. Les ulémas avaient peur de faire face à l'humiliation. C'est pour cette raison qu'ils pensaient qu'il valait mieux ne rien dire. Les mollahs d'aujourd'hui agissent autrement. Ils font face à de grandes humiliations quant à eux. Et plus tard, le mollah Hussein Badalvi a fait face à l'humiliation lui aussi. Le premier calife déclare que mon Dieu était tout le temps mon trésorier. C'est là un exemple de sa confiance en Dieu, car j'ai tout le temps placé ma confiance en Dieu. Il est le Tout-Puissant, celui qui m'a tout le temps soutenu. Une fois, lorsque j'étais à Médine et que je n'avais rien, le soir, je n'avais rien à manger. Lorsque je me suis préparé pour la prière d'Isha, en cours de route, un soldat s'est approché de moi et a dit que mon officier veut vous rencontrer. J'ai présenté des excuses parce que je devais me présenter la prière. Il a déclaré que je suis un soldat et moi je suis les ordres. Suivez-moi, sinon je vais vous prendre par force. Donc j'ai suivi ce soldat jusqu'à la maison d'un officier qui était riche. Et devant cet officier, il y avait un plateau de friandises indiennes. Il m'a dit « Comment appelez-vous ces friandises ?» Je lui ai dit que nous appelons cela des jilebis dans notre pays. L'officier a déclaré que j'en ai entendu parler d'un Indien et j'en ai fait préparer et je me suis dit que en premier je vais présenter cela à un Indien. Et j'ai pensé à vous et je vous ai fait appeler. Venez et consommez-en. » Je lui dis qu'il y a l'appel à la prière et je dois me présenter à la prière. Il a dit que nous allons envoyer quelqu'un à la mosquée et on va vous informer qu'on va débuter la prière. Donc, le premier calife en a consommé et une personne est venue l'informer lorsque la prière était prête, lorsque la takbir a été récitée. C'est ainsi donc qu'Allah l'avait soutenu. Il déclare que le lendemain, lorsque j'étais en train de préparer mon sac le matin, lorsque j'étais en train de préparer mes livres, j'ai vu un livre sterling. Jamais je n'avais pris l'argent de personne et jamais je n'ai vu la maison de personne ici. Et je savais très bien qu'il n'y avait personne dans cette maison auparavant. Personne n'est venu me rencontrer. Et j'ai considéré cette somme d'argent comme un cadeau d'Allah. Et je me suis dit que cette somme va me servir à l'avenir. Le Hafiz Roshan Ali Saheb, qu'un jour, je n'avais rien consommé le matin et je devais me présenter pour les classes. C'était une classe organisée par le premier calife. Et il déclare que notre classe de hadith avait débuté. Je ne me suis pas soucié de ma faim et j'ai participé, j'ai commencé à suivre la classe. Il déclare que j'entendais la voix de l'enseignant et je pouvais tout voir. Et petit à petit, la voix de l'enseignant s'est atténuée. Et je ne pouvais rien voir et je ne pouvais rien entendre en dépit du fait que j'étais présent. Dans cet état, second, quelqu'un m'a présenté un repas tout préparé. Il y avait du pain préparé au beurre clarifié, il y avait de la viande. J'en ai consommé et je me suis rassasié. Et lorsque j'étais rassasié, je suis sorti de cet état. Et je me suis retrouvé dans la classe et j'ai entendu de nouveau les paroles de l'enseignant, mais je ressentais encore la saveur du repas dans la bouche et j'étais repu. C'est comme si donc j'étais repu et j'avais repris de force après avoir mangé. Tout cela s'est passé alors que je ne suis pas sorti de cette classe, alors que personne ne m'a vu manger quelque chose. Le premier calife aussi a fait mention de tels incidents. Munshi Zafar Saheb déclare que le Messie premier alayhi salam était à Gurdaspur pour un procès un jour. Et il y avait beaucoup d'invités et on devait préparer des repas pour ces invités. Et un jour, le cuisinier a préparé un repas pour un nombre d'invités limité et en fin de compte, il y a eu plus d'invités, mais le repas a suffi pour tout le monde. Il est parti voir le Messie premier l'Islam et il lui a demandé s'il devait préparer la même quantité de repas pour le lendemain matin. Le nombre d'invités avait augmenté et il voulait donc savoir s'il devait préparer plus de repas. Le Messie premier l'Islam lui a demandé « Est-ce que tu veux éprouver Dieu ?» Allah a protégé notre honneur aujourd'hui. À l'avenir, prépare plus de repas. Puisqu'il avait reçu l'aide de Dieu, cela ne veut pas dire maintenant qu'il doit éprouver Dieu. Mukhtar Ahmad Hashmi déclare à propos de Mirza Bashir Ahmad Saheb, qui était le fils du Messie premier l'Islam, que ce dernier lui a dit que si selon lui quelqu'un mérite une aide financière et que cette personne ne veut pas demander directement, alors présentez-lui le nom de ces personnes qui méritent cette aide, mais ces personnes doivent mériter réellement cette aide. Mukhtar Ahmad déclare que j'ai présenté les noms des personnes qui méritaient cette aide. Une fois, Mian Saheb, c'est-à-dire Mirza Bashir Ahmad Saheb, lui a présenté une liste de personnes pour leur accorder une aide financière. Murtazab est resté silencieux et Mizabashi lui a demandé « Pourquoi ne dites-vous rien ?» J'ai déclaré qu'il n'y a plus de fonds. Tout l'argent pour l'aide financière est fini. Misa Saheb a posé sa main sur mon épaule et a déclaré que ne craignez rien, nous allons prendre du crédit et nous allons accorder cette somme aux gens. Et Allah va nous aider. Et après quelques jours, nous avons reçu plusieurs centaines de roupies. Sabahuddin Saheb rapporte de Misa Sharif Ahmed Saheb que lorsque ce dernier est parti en Angleterre pour une visite quelconque, il devait donc acheter quelque chose, je crois, pour construire une usine à Qadian. Il cherchait des informations pour ce faire. Au cours de ce voyage, donc, il était accompagné d'un Anglais. Au cours du voyage, donc, cet Anglais lui a dit qu'il n'avait plus d'argent pour continuer le voyage. Misa Sharif Saheb lui a dit que ne vous en souciez pas, Inch'Allah, Allah va nous aider. L'Anglais était très étonné. Il a dit que vous êtes un étranger dans ce pays. D'où allez-vous recevoir de l'argent ici, Mian Saheb? C'est-à-dire, Misa Sharif Ahmed Saheb déclare que j'ai prié. J'ai dit, oh Allah, aide-nous car nous sommes dans le dénuement. Et le lendemain, lorsque nous marchions dans la rue, une personne s'est adressée à moi et a dit, ô saint, c'est-à-dire, ô ami d'Allah. Et cette personne m'a donné un chèque portant une grosse somme et m'a demandé de prier pour lui. L'Anglais qui accompagnait Misa Sharif Saheb était tout étonné et il a déclaré que votre Dieu est certainement extraordinaire. Cheikh Fazal Ahmed Saheb de Batala déclare que lors de notre voyage à Dellouzi, j'étais accompagné de mon première épouse, de son frère aîné et de mon frère. Nous étions dans un voyage officiel, nous étions dans une voiture tirée par des chevaux. Il y avait aussi des voitures dans lesquelles il y avait des hindous. C'était un très long voyage. Nous nous sommes arrêtés quelque part. Et là-bas, les hindous ont aidé leurs frères hindous du voyage et leur ont donné des tentes. Et nous, nous étions là tout seuls. Et nous avions cherché des tentes, mais nous n'avions pas eu de succès. Akbar Ali a dit qu'il fait nuit, qu'allons-nous faire maintenant? Je lui ai dit que Allah va nous aider. Place ta confiance en Allah. Et lorsqu'on place sa confiance en Allah, on n'a pas de souci à se faire. Allah va certainement nous aider. Et une personne à cheval s'est approchée de nous et m'a salué et a déclaré, êtes-vous ici, vous? Je lui ai raconté l'histoire et il m'a dit que je viens tout de suite. Après quelque temps, il est venu avec une tente et de l'herbe et il était accompagné de quelques soldats et ils ont installé la tente et ont préparé aussi l'herbe et ils ont aussi placé une tente pour servir de toilette. Il a déclaré que je vais apporter du repas pour vous, mais cela va prendre du temps. Excusez-moi. Et il a fait apporter de l'eau et vers 11h du soir, il a porté du repas et il a déclaré que puisqu'il fait nuit, j'ai pas pu préparer de la viande, je n'ai pu préparer que des lentilles. Acceptez cela. Cette personne m'a demandé, vous ne me connaissez pas? Et Cheikh Fazal Saheb a déclaré que je crois que je vous ai rencontré quelque part, mais je ne sais pas où. L'autre a dit que vous aviez écrit ma demande et grâce à cette demande, j'ai eu une promotion. Et c'est pour cette raison que je prouve ma reconnaissance envers vous. Il a déclaré que je vais partir et je vais laisser ces soldats-là pour surveiller vos biens.
Or,
Et après cela, cher Fazal Sahib déclare que je me suis prosterné devant Dieu pour remercier Dieu et cet incident a renforcé ma foi. Le premier calife Radio Talanho déclare qu'une fois j'étais en compagnie du Maharaja de Cachemire qui m'a dit que Molviji, vous déclarez que nous consommons du porc, c'est pour cette raison que nous faisons des attaques inappropriées. Il avait dit au Maharaja, au souverain, que vous consommez uniquement du porc. C'est pour cette raison que vous êtes dur et âpre. Le roi lui a dit que les Anglais aussi mangent du porc, mais pourquoi est-ce qu'ils ne lancent pas autant d'attaques? Le premier calife a déclaré qu'il consomme aussi de la viande de vache. C'est pour cette raison qu'il arrive à se réformer. Et pour 2 ans, le Maharaja ne lui a pas parlé à propos de la religion. Le Messie premier l'Islam déclare que dans le Saint-Coran, on trouve mention de cet enseignement, l'enseignement par l'entremise duquel on arrivera à voir Dieu de ses yeux ici-bas. Il est dit Man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada. C'est-à-dire, quant à celui qui désire rencontrer son Seigneur ici-bas sur terre, ce Dieu qui a tout créé, il doit accomplir de bonnes œuvres et doit pas corrompre ses actions, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas accomplir ses actions par ostentation et ne doivent pas être orgueilleux en raison de ses actions. Et ses actions ne doivent pas comporter des lacunes et il ne doit pas y avoir des relents de l'égoïsme dans ses actions. Il doit faire preuve de véridicité, de fidélité et doit aussi éviter toute forme de polythéisme, ne doit pas se prosterner devant le soleil, la lune, le ciel, ne doit pas prendre pour Dieu le feu, la terre ou le vent, et ne doit pas accorder une telle importance aux moyens de ce bas monde et placer une telle confiance en ces moyens comme si ces moyens sont des partenaires de Dieu. Il ne doit pas non plus accorder une grande importance à ses capacités. Car ce sera là une forme de shirk. Au contraire, après avoir tout accompli, il doit comprendre qu'il n'a rien fait. Il ne doit pas être orgueilleux en raison de ses actions ou en raison de sa connaissance. Il doit se considérer comme un ignare, comme un ignorant, et doit se prosterner devant le seuil de Dieu. Et doit tout le temps prier et implorer Dieu afin d'attirer sa grâce et doit être comme cette personne qui est en train de mourir de soif et devant qui coule une source d'eau désaltérante. Clopant, clopant, tombant et se relevant, il doit se rapprocher de cette source d'eau et doit en consommer l'eau. Il doit consommer cette eau jusqu'à ce qu'il s'est rassasié. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse progresser en humilité, en modestie, en confiance en Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils puissent aussi faire du progrès dans leur foi et qu'ils puissent voir les signes de l'aide de Dieu. Et que nous puissions progresser dans notre connaissance et dans nos actions, et que nous puissions considérer cela comme une grâce de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions éviter toute forme d'orgueil et d'amour de ce bas monde. Nous avons vu comment Allah a soutenu et aidé les compagnons du Messie premier l'Islam, et qu'il fasse que nous soyons traités de la même façon. Et que nous puissions tout le temps nous prosterner devant Dieu. Et que nous puissions tout le temps étancher notre soif à cette source.